Ce soir, nous recevons Marcel Méchali, qui est biologiste moléculaire, pour une conférence intitulée « Reproduction du génome, quel est son rôle dans le développement et la différenciation ?» Donc, cette leçon s'inscrit dans la série des 19 conférences que nous avons consacrées depuis le 8 juin au thème de « Qu'est-ce que la vie ?» ou « En est-on de la connaissance du génome ?» et que nous vous proposons jusqu'à mardi prochain, donc 8 juillet inclus. Après quoi, donc, il y aura une autre série de conférences du 11 au 19 octobre sur le thème « Quelle culture pour quel humanisme aujourd'hui ?» Un mot très rapide sur les différents modes de diffusion du TLS. Pour ça, en fait, je vous renvoie au petit programme qui est disponible à l'entrée, où vous pouvez retrouver donc toutes les adresses internet. À la radio, sur France Culture, donc le matin entre 6h et 7h du matin, dans le cadre de l'émission L'éloge du savoir, cette série sera entièrement rediffusée, mais probablement pas avant le mois de septembre. Et puis un mot sur les éditions Odile Jacob, où vous pouvez donc retrouver l'ensemble des conférences de l'an 2000 à travers 6 grands ouvrages et aussi à travers un découpage différent de 20 volumes poche. Et depuis, donc, nous mettons les textes en ligne et nous ne faisons plus d'édition. Je vous présente donc maintenant notre conférencier de ce soir, Marcel Méchali. Il est biologiste moléculaire, directeur de recherche au CNRS. Quelques dates concernant son parcours. En 1980, il est docteur en sciences. En 1986, directeur de recherche au CNRS. En 1994, il obtient la médaille d'argent du CNRS. En 2002, il est élu membre de l'European Molecular Biology Organization. Et en 2005, élu membre de l'Académie des sciences. Ses spécialités. Donc Marcel Méchali s'intéresse à la duplication de notre ADN qui a lieu à chaque division de nos cellules. Il a découvert les mécanismes régulateurs qui gouvernent cette réplication du génome chez les organismes supérieurs. Ses travaux proposent que le génome s'organise pour sa duplication de manière coordonnée avec l'expression des gènes au cours du développement. Ces liens nouveaux entre réplication et transcription pourraient avoir été essentiels au cours de l'évolution. Son laboratoire a également découvert plusieurs protéines de réplication et sa recherche ouvre également des perspectives d'investigation dans le domaine du cancer. Marcel Méchali est l'auteur de 130 publications d'articles originaux, dont plusieurs dans des revues prestigieuses comme Nature, Cell Science, etc. Voilà, donc maintenant je lui cède la parole pour une petite heure, après quoi vous pourrez poser vos questions. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup de cette invitation à ce cycle de conférences. Vous avez déjà beaucoup, je crois, entendu parler du génome. Et aujourd'hui, nous allons aborder la reproduction donc, de ce génome, c'est-à-dire, en fait, ce qui est écrit ici, la réplication de notre génome, c'est-à-dire la duplication des molécules d'ADN que vous avez dans chacune de vos cellules. Et au cours de cet exposé, j'indiquerai d'abord donc la place que tient ce phénomène dans les organismes vivants et quels sont finalement les enjeux de ce phénomène pour le vivant. Puis nous aborderons les problèmes qui sont posés par la duplication de l'ADN des organismes complexes comme les nôtres. Et enfin, dans une dernière partie de mon exposé, j'aborderai les facteurs qui viennent contribuer à cette duplication de l'ADN. Vous allez voir qu'ils sont très nombreux, je ne vous les citerai pas tous, mais vous verrez que le phénomène est vraiment une machinerie moléculaire absolument incroyable. Et nous allons voir aussi qu'au cours de l'évolution, la façon dont notre génome s'est divisé à chaque division de la cellule, a dû s'adapter finalement pour tenir compte que pour un organisme cellulaire comme le nôtre, il ne faut pas seulement que la cellule se divise, mais il faut aussi qu'elle se différencie, c'est-à-dire qu'elle donne lieu à une cellule par exemple de sang, ou bien une cellule de la peau, ou bien une cellule de la moelle épinière. Et c'est donc ces deux phénomènes de division cellulaire au cours de l'évolution a dû s'adapter aussi au fait que ces cellules devaient aussi se différencier et des mécanismes nouveaux sont apparus et des protéines nouvelles sont apparues au cours de l'évolution. Donc avant de démarrer, je vais faire quelques petits rappels. Je m'en excuse pour certains de mes collègues qui sont des spécialistes ici, mais ces rappels sont toujours nécessaires. Alors première chose, et bien évidemment, le vivant est fait de cellules. Tout être vivant est fait de cellules. Et une hypothèse de l'hypothèse principale de Rutow-Virchow en 1958, toute cellule vient d'une cellule. Aucune cellule sur Terre ne se fait comme ça. Elle provient par division d'une autre cellule, que ce soit dans le monde animal ou le monde végétal ou le monde bactérien. Donc la cellule, c'est l'unité de vie. Hein, tout ce qui est vivant est cellulaire, encore une fois. La cellule est l'unité constitutive des organismes vivants, Et un adulte humain comme vous, ou comme vous, comme moi, est composé de 100 000 milliards de cellules. Vous voyez que ça fait beaucoup. Qui sont organisées en environ 200 tissus différents. L'organisme, bien sûr, dépend de l'activité de ces cellules que nous avons, aussi bien celles qui sont isolées comme les cellules du sang, qui se promènent dans notre organisme, à travers la tuyauterie de nos veines et de nos artères. Et aussi bien, il dépend de l'activité de cellules qui se groupent en tissus dans nos différents organes, dans le foie, le cœur, etc., de nos différents organes, pour les différentes fonctions. Et ce qu'on va aborder aujourd'hui, c'est comment l'information qui est dans chacune de ces cellules va se dupliquer, se diviser à chaque division, se reproduire pour transmettre évidemment l'information à chaque cellule fille. C'est donc cet ADN qu'il faudra dupliquer à chaque division de la cellule, toute cette information. Donc, très brièvement encore une fois, donc la division cellulaire permet le renouvellement des êtres unicellulaires comme les bactéries, la levure, ça c'est vrai, mais aussi la formation de l'organisme, c'est le développement embryonnaire par exemple, chez les êtres multicellulaires que nous sommes. Et aussi quelque chose qu'on oublie souvent, c'est pendant que je vous parle et pendant que vous m'écoutez, ce sont des centaines de millions de divisions de cellulaires qui se passent par jour dans votre organisme. C'est même des milliards de divisions de cellules qui se passent par jour dans votre organisme. Ce qui fait que probablement, si je vous voyais dans 2 ou 3 ans, je pourrais vous dire, mais vous êtes complètement nouveau parce que vous êtes déjà entièrement renouvelé de vos cellules. Donc sans arrêt, votre organisme renouvelle ses cellules. Ce ne sont pas les mêmes de la naissance à la mort. Et à chaque fois, évidemment, il faut repliquer l'ADN. Alors la division de l'ADN, elle se fait dans un cycle qu'on appelle le cycle cellulaire. Et on part, si vous voulez, d'une cellule que vous voyez ici. Et cette cellule va rentrer dans une phase de croissance, elle pousse, elle grossit. Et à un moment donné, elle reçoit un signal qui lui dit c'est le moment de se diviser. Et avant de se diviser, évidemment, elle va diviser son information, c'est-à-dire l'ADN. Et ça se passe pendant ce qu'on appelle la phase S, ou phase de synthèse d'ADN. Une fois que l'ADN s'est divisé, il se réorganise un peu mieux en chromosomes, et ces chromosomes qui contiennent donc l'information génétique se séparent à la mitose, et vous aboutissez comme ça à 2 cellules filles, que vous voyez en bas, ces 2 cellules filles qui ont chacune une copie de l'information. Hein, c'est comme si on dupliquait un CD ou un disque. On refait l'information. Et chaque cellule maintenant que vous avez divisée, ces cellules peuvent maintenant rentrer dans un cycle des divisions à nouveau, peuvent continuer à se diviser. Mais également, elles peuvent, c'est ce qui est indiqué sur la cellule qu'on voit plutôt à droite, elles peuvent sortir du cycle. C'est-à-dire que dans certains cas, dans certains organismes très différenciés, par exemple dans le cerveau, les divisions cellulaires sont très très faibles. On pensait d'ailleurs pendant longtemps qu'il n'y en avait pas du tout. Il y en a en fait, mais elles sont extrêmement peu nombreuses. Et en tout cas, il y a des cellules qui peuvent rester comme ça. On le verra tout à l'heure aussi dans un exemple, des dizaines d'années sans se diviser. Alors on prend une bactérie maintenant ou une levure. C'est un unicellulaire. Cette bactérie va se diviser et on va obtenir, voilà, elle a des gènes dans son noyau et elle va se diviser. Mais une bactérie ou un virus, ça ne donnera jamais qu'une bactérie ou un virus. Éternellement, depuis qu'elles sont sur Terre, elles ne donnent que des bactéries ou des virus. Des bactéries ou des levures, si on parle des levures. Alors pour un organisme multicellulaire, par contre, là la tâche va être plus complexe. Il est composé de plusieurs cellules et il faudra en particulier, au cours du développement de l'embryon, maintenir ce que je disais tout à l'heure, cet équilibre entre prolifération et différenciation. Et cet équilibre, il est absolument important. Il est dû par toute une batterie de gènes et de régulations très complexes, de telle manière à ce qu'au fur et à mesure que les cellules se divisent, elles puissent aussi intégrer, se coupler au phénomène de différenciation. Et évidemment, si l'équilibre fonctionne bien, eh bien, vous avez le développement harmonieux d'un embryon. Il pousse, il grandit et il donne un petit bébé. Ça fonctionne bien. Si vos cellules se renouvellent en se différenciant, ça se passe bien aussi. Mais évidemment, si cet équilibre est rompu, par exemple, par la mutation d'un gène, eh bien, vous pouvez aboutir à des maladies importantes. Et c'est le cas dans les cancers, par exemple, qui est une division de la cellule qui ne répond plus aux signaux et qui se met à dupliquer son ADN de façon un peu anarchique. Et évidemment, la division de la cellule et de l'ADN donc prend son point culminant dans l'embryon, lorsqu'on part d'un œuf qui va être fécondé par un spermatozoïde et qui va donner un petit bébé. Et évidemment, pendant longtemps, la fécondation d'un œuf, depuis longtemps, ça fascine aussi bien le tout un chacun que les scientifiques. Et là, je vous rappelle simplement une hypothèse pour l'histoire, parce que vous voyez comme ça que les concepts ont évolué. Ça, c'était une hypothèse qu'avait donnée Nicolas Hatzoker en 1694. Ça avait été repris au XVIIe siècle par Charles Bonnet. Nicolas Hatzoker, en regardant sur un microscope des spermatozoïdes, avait cru voir à l'intérieur de la tête du spermatozoïde un petit bonhomme, un petit homme miniature qui se trouvait dans la tête du spermatozoïde. Vous voyez ici avec ses bras, il est recroquevillé sur lui-même avec la tête penchée en avant. Et il avait dit, ben voilà, donc finalement, l'ovule, l'œuf de la femme, c'est un incubateur pour ce spermatozoïde qui a ce petit homme et qui va grandir. Alors, évidemment, les gens ont dit non, écoutez, c'est un peu bizarre quand même, parce que si ce petit homme miniature, il a des spermatozoïdes, eux-mêmes ont aussi un petit homme miniature, qui ont eux-mêmes des spermatozoïdes, qui ont des petits hommes miniatures, et donc c'est sans fin. Mais à l'époque, en tout cas, l'hypothèse était restée ce qu'elle était, parce que c'était pas une objection fatale, parce qu'on disait, après tout, ça explique que Adam avait déjà toute l'humanité toute entière dans ses spermatozoïdes, finalement. Bon, alors, je vous rassure, la science a évolué. On sait que l'ovule ne sert pas qu'à recevoir le spermatozoïde, mais qu'il amène aussi son génome, et que l'œuf se fait par réunion de la copie d'ADN parentale du père et de la copie de l'ADN de la mère, fusion dans un seul noyau et développement. En tout cas, ça indiquait aussi qu'il fallait faire très attention à l'observation, puisque là, c'était parti d'une observation au microscope et que ça demande toujours à être vérifié. C'est aussi une leçon pour un scientifique. Alors, cet œuf va se diviser. La question, c'est, il se divise, mais pas comme ça. S'il se divisait comme ça, ce serait une bactérie. Il se diviserait, il donnerait des œufs. Il se divise pas comme ça, et il se divise plutôt de la manière suivante. Et ici, vous avez un exemple qui est un petit film sur un œuf de grenouille, parce que c'est facile à filmer. Et vous voyez que cet œuf, dès la fécondation, se divise de façon extrêmement synchrone avec ses collègues. Vous voyez ici un stade 2, un stade 4, un stade 8 cellules. Et cet œuf va se diviser, les cellules vont rester groupées, elles vont se diviser. Ça va très vite chez la grenouille. Les cycles de division sont toutes les demi-heures. Mais cet œuf ne va pas faire que se diviser. Déjà, au moment où vous ne voyez pas la différence dans la cellule, il y a déjà des différences de composants. Là, il y a des mouvements qui se font, il y a la gastrulation qui se fait, la formation maintenant du petit bourgeon, et vous voyez déjà qu'il y a des cellules qui ne se ressemblent pas aux autres. Et pourtant, c'est exactement le même texte génétique qu'on divise dans chaque cellule. Et cet embryon va continuer à se diviser. Vous voyez les mouvements qui indiquent que le système nerveux est en place, jusqu'à l'éclosion la sortie du petit étard de la gelée au bout de 2 à 3 jours. Ça va très vite chez l'embryon de grenouille. Et ça vous indique finalement qu'à partir d'une cellule unique, on va aboutir à un individu. Pardon. Alors là, c'est du développement, mais pour tous, hein, je vous rassure. C'est un livre d'enfant. Vous voyez un œuf, mais ça dit tout, hein, finalement. On part de l'œuf au-dessus. Et on voit là simplement sur un dessin ce qu'on vient de voir sur un film. On va passer de l'œuf ici à la grenouille en dessous. Et le grand, grand, grand problème qui se pose à beaucoup de scientifiques et dans la recherche à ce niveau-là et sur le génome, c'est comment on fait à partir du même texte génétique qu'il y a dans l'œuf, dans toutes les cellules de cette grenouille, c'est exactement le même texte génétique qu'on va trouver dans l'œuf, comment on fait à partir du même texte de faire des choses aussi différentes que par exemple des muscles de la peau, des cellules de l'œil, de l'épiderme, etc. Comment on fait à partir du même texte de faire des musiques différentes? Si je reprends l'exemple du CD comme tout à l'heure, comment on fait en dupliquant des CD de faire des CD qui jouent des partitions différentes? Et ça, c'est un grand problème pour les scientifiques de comprendre ça. Alors c'est un peu réexpliqué ici d'une autre manière, donc je vais passer un peu plus vite. Simplement toujours cet œuf qui va donner à ces 100 000 milliards de copies donc de l'ADN, puisque là on parle de copies de l'ADN maintenant, et comment fait-on pour que ces copies s'expriment de manière différente. Donc l'ADN, c'est la molécule qu'on va dupliquer, qui contient l'information. Il y a 3 milliards de lettres dans l'ADN, et 30 000 gènes à peu près pour chaque cellule. C'est l'équivalent à peu près de 800 bibles ou 800 encyclopédies, comme vous voulez. Dans les pays anglo-saxons, on dit plutôt bible. Dans les pays européens, on dit plutôt encyclopédie. Qu'il faudra dupliquer à chaque division. C'est-à-dire, si vous imaginez, c'est-à-dire à peu près 100 volumes de 1000 pages. Ça vous fait une pile de pages d'à peu près 100 mètres de haut que vous avez dans chacune de vos cellules en texte d'information qu'il faut dupliquer à chaque division. La grande découverte de l'ADN, c'est le 25 avril 1953 par Watson et Crick, qui voici exactement le schéma tel qu'ils l'ont publié en avril 1953 dans la revue Nature, avec cette double hélice d'ADN. Et sur cette double hélice, les barreaux des chaînes, ça représente les lettres qui se trouvent les unes en face des autres de cette double hélice qu'il faudra dupliquer, cet alphabet qu'il faudra dupliquer. Et ces auteurs, dès qu'ils ont vu la structure en double hélice de l'ADN, ils se sont dit, eh bien, on comprend maintenant la façon dont cet ADN se divise entre les cellules filles, puisqu'il suffit maintenant d'ouvrir ces deux brins d'ADN, ce que vous voyez en bas, ces deux brins qui s'ouvrent, pour que chaque brin reconstitue une double hélice complète. Donc la structure de l'ADN, là, apparaissait pratiquement magique pour les auteurs, et lorsque c'est paru dans la littérature, parce que la structure même donner la réponse, comment elle allait se diviser dans chaque cellule. Et en fait, ça se divise exactement comme une fermeture éclair. Vous imaginez une fermeture éclair, c'est la double hélice. On l'ouvre et chaque brin de la fermeture éclair va reconstituer en face une deuxième fermeture éclair. Ouais, c'est exactement ce qui se passe. Et donc, c'est cet ADN, cette longue molécule qu'il faudra dupliquer à chaque division pour reproduire notre génome. Alors, le grand problème, c'était où ça démarre. On s'est vite aperçu que ça démarrait pas par les bouts. Et une découverte fondamentale qui a été faite par François Jacob à gauche sur la diapo et Sidney Brenner à droite a été faite en fait par une discussion entre François Jacob et Sidney Brenner, qui étaient tous les deux des futurs prix Nobel puis un peu plus tard, alors qu'ils se trouvaient à la Tranche-sur-Mer en vacances avec leurs enfants qui chahutaient autour d'eux, et ils ont dessiné sur le sable le modèle du replicon sur lequel tout le monde a travaillé. Alors ça, c'est pas le modèle original, hein, je suis pas allé le chercher sur le sable de la Tranche-sur-Mer, il a été malheureusement effacé par les vagues, j'imagine, depuis longtemps. Ça, c'est un dessin que j'ai tracé moi-même à Montpellier, il est un peu plus récent. Mais c'est exactement la façon dont ils l'ont indiqué dans leur publication, c'est-à-dire qu'on a ici le grand cercle, c'est le génome de la bactérie, et ils ont imaginé qu'il y avait un seul endroit sur le génome de la bactérie où la double hélice s'ouvrait et qui allait permettre de dérouler et de, comme ça, diviser tout l'ADN bactérien. Cet endroit, on l'appelle maintenant l'origine de réplication. Et ce modèle s'est avéré être exact expérimentalement et s'est avéré être un modèle universel dans tout le monde bactérien, dans tout le monde des virus. On sait qu'il y a qu'une seule, dans tout le monde bactérien en tout cas, pour certains virus ont plusieurs origines, mais dans tout le monde bactérien, il y a une seule origine de réplication. C'était la théorie du replicon qui a été réécrite un peu plus tard avec des expériences à la clé par Jacob, Brenner et Cousin, et où on voit ici donc le replicateur, l'origine et ses protéines qui vont ouvrir la double hélice. Donc chez la bactérie, une seule origine. Les deux brins se séparent, il faut à peu près une demi-heure pour dupliquer le génome. Voilà, bactéries, alors ça va vite, ça fait 30 000 bases à la minute, ça fait 30 000 lettres à la minute, hein, ça va très très vite. Vous le verrez tout à l'heure sur un petit film de simulation, c'est très impressionnant. Alors la levure, alors quand on voit un organisme là qui est eucaryote, un vrai eucaryote comme la levure, un unicellulaire eucaryote, c'est déjà plus compliqué, parce que l'ADN est plus long. Il est plus long et ne pouvait pas augmenter éternellement la vitesse de réplication. Et pour la levure, eh bien, il faudra 330 origines, 330 endroits où on va ouvrir l'ADN pour pouvoir bien le repliquer dans un temps honnête. Si vous aviez qu'une seule origine par génome de levure, il vous faudrait 80 heures pour diviser une levure. Chez l'humain, c'est encore pire, il en faut 50 000. Il faut 50 000 origines qui démarrent dans une cellule, dans chaque cellule, pour diviser le génome. Le génome, on l'a vu tout à l'heure, hein, je vous ai dit, ça ferait une pile de 100 mètres de haut, de pages d'écriture, de lettres. Donc c'est ça qu'il faut dupliquer, c'est très très long. Et donc il faut 50 000 origines pour les pouvoir diviser simplement dans un temps raisonnable cet ADN. Si vous mettiez qu'une seule origine par chromosome, par exemple, on pourrait dire pourquoi pas une origine par chromosome, il faudrait à peu près 50 années pour faire un bébé. Ce qui, mesdames, serait un problème, je pense, pour vous. Il n'y en a pas beaucoup qui feraient des petits bébés, je pense. Donc 50 000 origines, et en fait, ça c'est des chiffres, hein, c'est toujours amusant, ce que vous voyez en dessous, c'est qu'en fait, durant votre vie, vous synthétisez 2 10 puissance 13 kilomètres d'ADN, c'est-à-dire, c'est des chiffres absolument hors de l'imagination, 2 années-lumière d'ADN dans votre individu au cours d'une vie. Ça atteint des dimensions qui sont effrayantes. Alors ça se passe par l'intermédiaire de ces bulles que vous voyez sur l'ADN, ça s'appelle les origines, on dit aussi des bulles de réplication, on dit aussi des yeux de réplication. Donc quand je dirais des yeux, c'est pareil, c'est l'endroit où s'ouvre l'ADN. Alors vous voyez cet ADN qui s'ouvre, et en rouge, c'est les copies complémentaires qui se font. Et vous voyez ici, vous avez deux origines maintenant qui ont fusionné, enfin l'ADN a été synthétisé, donc c'est en train de se fusionner là aussi, et ici, à l'arrivée, vous avez bien deux copies complémentaires, deux copies de du génome initial. À l'intérieur d'une bulle, d'un œil de réplication, ça se passe comme ça. L'origine a démarré. Elle progresse, les chaînes progressent dans les 10 directions, vers la droite et vers la gauche, par un mécanisme sur lequel je passe. Disons que ça se fait de façon continue, on va dire, dans un sens, et de l'autre sens, par petits fragments d'ADN, mais ça, c'est de la mécanique sur laquelle j'insisterai pas. À l'arrivée, vous avez bien deux copies. Et si vous regardez en microscopie électronique, vous voyez bien, le long de la molécule d'ADN, ces yeux de réplication que vous voyez ici. Alors, on va revoir ça maintenant sur un petit film, parce que ça met davantage les choses en place, et on voit davantage le phénomène se faire. Donc, vous avez une origine de réplication chez la bactérie. Donc, on part avec une bulle, ça se divise, et vous allez voir qu'à l'arrivée, vous aurez bien deux copies du génome de ce génome bactérien, avec un brin nouveau et un brin neuf à chaque fois. Vous avez deux bactéries qui ont été faites, la division va avoir lieu, et deux bactéries qui se font. Ça, c'est une bactérie. Maintenant, on va regarder un génome comme le nôtre. Là, on ne voit que trois origines, mais comme je vous l'ai dit, il y en a 50 000, comme ça, le long du génome. On va faire un focus sur ces trois. Et vous voyez, de la même manière, ça démarre, ça progresse, et quand ça fusionne, hop, on a à nouveau deux molécules d'ADN synthétisées. Voilà. Donc voilà comment se fait ce phénomène avec 50 000 origines. Et alors, donc ce qui est important dans le phénomène de réplication dans les organismes multicellulaires, comme je l'ai dit, c'est qu'il faut coupler ces phénomènes de division à des phénomènes de développement, de différenciation. Et en fait, on va s'apercevoir que les origines de réplication sont mises, ces yeux qu'on met le long de l'ADN, sont en quelque sorte, font partie en quelque sorte des ponctuations du texte. On a dit tout à l'heure comment on va faire à partir d'un même texte obtenir des interprétations différentes dans tous les tissus de l'organisme. Elles ont le même texte, les mêmes copies des CD, comment on fait pour faire la musique différente. Et ben, un des trucs qu'a trouvé le vivant, c'est de le ponctuer de manière différente, ce texte, de mettre des ponctuations différentes. Et les origines de réplication font partie importante de ces ponctuations. Là, j'ai marqué simplement mes collaborateurs dans le laboratoire qui sont des étudiants ou des chercheurs postdoctoraux ou des thésards qui ont collaboré à ce travail, en tout cas dans mon laboratoire. On sait qu'il y a 50 000 donc, origines de réplication. Vous avez un noyau ici d'une cellule. Ce que vous voyez en vert, c'est on a marqué les endroits où se trouvent ramassées ces cellules. Vous voyez plein de petits points verts. Et ce sont les machineries dans le noyau où se fait la synthèse. Si vous regardiez de plus près, on reverrait donc ces bulles que j'ai indiquées tout à l'heure. On voit trois bulles. Et le grand problème pour le biochimiste, le biologiste moléculaire à l'heure actuelle, c'est que lorsqu'il regarde les mots qu'il y a dans ces bulles, les lettres qu'il y a, l'alphabet qu'il y a là, il ne voit pas de ressemblance. Et ça, c'est un cauchemar pour un chercheur, parce qu'on se dit il doit y avoir des mots qui sont les mêmes, qui disent « là, il y a une origine », pour qu'on reconnaisse évidemment la séquence. Et en fait, ce n'est pas le cas. Lorsqu'on les regarde, on ne voit pas, il n'y a pas de texte qui se ressemble pour ses origines. Et une des hypothèses, en particulier que mon laboratoire avait énoncé il y a plusieurs années, qui a été reprise maintenant par pas mal de laboratoires et qui est très étudiée un peu de par le monde, c'est que les origines de réplication ne sont en fait des ponctuations qui donc, encore une fois, amènent du sens à ce texte génétique et que ponctuer ce texte ADN de manière différente dans les différentes cellules, permet d'obtenir des interprétations différentes et donc des musiques différentes, des textes différents. Et on va voir des exemples de cela aujourd'hui. Et on va voir aussi un exemple qui montre que ça se marche dans un sens, dans le sens du développement vers la différenciation, mais que ça marche aussi dans l'autre sens, On va le voir dans les moments où on peut aussi déprogrammer un génome. Vous avez peut-être entendu parler, c'est, attention, on parle beaucoup de cellules souches, de choses comme ça. On peut aussi, on va le voir, déprogrammer un génome, par exemple dans l'expérience de clonage animal. Donc le mot-clé, c'est ça, c'est une organisation différente de l'ADN pour sa duplication, amène des ponctuations différentes au texte, qui permettent une lecture différente du texte selon la cellule dans laquelle il se trouve. Encore une fois, le texte, le génome reste le même, mais il peut être interprété différemment. Alors un chercheur, pour étudier ce phénomène, il faut qu'il trouve un système modèle. Alors, c'est des modèles qui se prêtent plus à l'étude du sang, d'autres plus à l'étude des anticorps, d'immunologie, du système nerveux. Pour la division, le système modèle intéressant, c'est la grenouille, qu'on a vu tout à l'heure. Vous avez vu tout à l'heure que c'est cet œuf qui se divise très rapidement. Ça se fait à l'extérieur de l'animal, et donc c'est un modèle qui est de choix pour un chercheur. Ici, donc, vous avez le Xenopus levis, madame, qui est en train de pondre ses œufs. Ça peut pondre 40 000 œufs, 30 000 œufs à peu près dans la nuit, donc c'est très abondant. Et vous voyez donc ce qu'on a fait avec ces œufs, c'est qu'on a regardé où se trouvaient les origines de réplication, ces bulles, au fur et à mesure du développement. Et ce qu'on a trouvé, c'est que, en fait, au début du développement, lorsque les gènes ne sont pas encore tout à fait exprimés, eh bien, les origines peuvent se mettre un peu n'importe où sur l'ADN. Il n'y a pas d'endroit réellement bien précis où les origines peuvent se mettre lorsque les gènes ne sont pas exprimés. Et au début du développement chez la grenouille, ça se divise très vite, mais sans exprimer les gènes. Par contre, à partir de la gastrulation, c'est-à-dire au moment où on a les différenciations qui vont se faire, on va aller vers des cellules bien définies, eh bien on s'aperçoit que cette ponctuation se met en place. C'est comme si la musique de départ ne voulait rien dire, c'est un continuum, et la ponctuation se met en place au moment justement où il faudra donner du sens à ces cellules. Et on a pu reproduire ça également avec des molécules d'ADN qui sont injectées dans l'œuf de grenouille. On pouvait injecter des petites molécules d'ADN pour voir si on peut reproduire cela. Et ici, nous avions une molécule qui avait été injectée avec un gène qui était inactif. Et dans ce cas-là, vous voyez que les origines peuvent se mettre un peu n'importe où, comme dans le développement embryonnaire précoce. Par contre, si on peut rendre expérimentalement ce gène actif, c'était en fait en lui associant des facteurs de transcription, on s'apercevait que l'origine, maintenant, la ponctuation se plaçait de manière très précise près du gène, un peu pour contrôler ce domaine. Donc une origine devient fixe, finalement, quand le gène va devenir actif au cours du développement pour ces gènes spécifiques. On peut regarder ça aussi chez la souris. On vient de voir chez le vertébré, le xénope. On peut le voir chez un autre vertébré, chez un mammifère, chez la souris. Vous voyez, et ça, ce sont des études qu'on a fait aussi sur des cellules souches pluripotentes. Vous savez, vous avez sans doute entendu parler des cellules souches. Vous savez qu'elles ont une importance et un intérêt énorme en ce moment parce qu'on pense qu'elles peuvent avoir un intérêt thérapeutique gigantesque pour remplacer certaines de nos tissus endommagés, par exemple, ou malades. Et évidemment, ce qu'on recherche dans tous les laboratoires, c'est le moyen d'obtenir des différenciations stables de ces cellules pour pouvoir faire ces remplacements. Donc cette cellule souche pluripotente, on peut effectivement la faire différencier sur une boîte de pétri, in vitro, on peut la faire différencier en une cellule nerveuse. Et lorsqu'on regarde les origines de réplication, par exemple, sur un gène donné, c'est ce qu'on a fait, on s'aperçoit que les origines de réplication aussi sont en plusieurs endroits, mais lorsque on s'intéresse à un gène qui est important dans la différenciation, eh bien, cette ponctuation devient différente. C'est ce qu'on a regardé. Ce sont surtout les gènes homéotiques. On a regardé les gènes homéotiques parce que ce sont des gènes qui sont importants justement pour faire le patron de l'embryon. Ce sont des gènes qui déterminent la place de vos organes dans l'embryon, et également l'axe de polarité de votre individu, la polarité antéro-postérieure en particulier. Et ce que vous avez ici un embryon de drosophile avec l'axe antéro-postérieur, vous pouvez voir en particulier que le gène qui est à droite de cet ADN-là en bleu, il est exprimé plutôt dans la queue de l'animal au cours du développement, celui qui est ici en orange plutôt ici. Et vous voyez que l'ordre des gènes le long de ce de ce domaine de l'ADN de drosophile, de ce gène drosophile, correspond exactement à l'ordre dans lequel les gènes vont s'exprimer dans l'embryon et dans le corps de l'animal. Et ce phénomène est conservé pratiquement de la drosophile, de la mouche, à l'homme. Donc c'est très étudié aussi. Donc on s'est intéressé particulièrement, nous, à ce domaine que vous voyez cerclé en rouge, qui était un domaine qui était important pour la formation du système nerveux chez l'embryon de souris. Alors je passe. Ce qu'on a regardé ici, c'était où se trouvaient les origines par des moyens biochimiques. Et vous voyez deux endroits principaux, deux pics, qui vous indiquent que dans ces cellules pluripotentes, il y a deux origines de réplication qui peuvent démarrer au cours de la division de cette cellule lorsqu'elles ne se différencient pas, lorsqu'elles sont là simplement à se diviser. Par contre, vous voyez que lorsque ces cellules rentrent en différenciation, il n'y a plus qu'une origine qui se place. Elle se trouve à gauche, là, comme si elle venait contrôler un petit peu tout le domaine des gènes qu'on voit en dessous, ici. Elle se trouve à gauche et pour contrôler la ponctuation de tout ce domaine de gènes homéotiques, ici. Donc, finalement, qu'est-ce qu'on vient de dire ? On vient de dire que, finalement, il y a un moment dans le développement, entre l'œuf et l'adulte, entre le petit organisme qui va naître, et un moment, il faudra coupler la duplication du génome à la différenciation des cellules. Il faudra coupler la réplication à la différenciation, et ça va se faire en amenant une ponctuation bien précise de ces origines de réplication le long du génome. La question qu'on pouvait se poser à ce moment-là, c'était si c'est vrai dans un sens, est-ce que ça peut être vrai dans l'autre sens ? C'est-à-dire que si maintenant je prends un noyau d'une cellule bien différenciée, un bout de peau, un bout d'intestin, je ne sais trop quoi, et que je prends cette cellule, est-ce que je peux lui faire revenir en arrière ? Est-ce que je peux lui faire acquérir des propriétés de cellules souches, ou voire de celles d'un œuf ? Et ça, ce sont des expériences qui ont été réalisées, en fait, dans les années 50, ça a démarré, avec le clonage. Alors, bien avant qu'on ait cloné, vous savez qu'on a cloné des vaches, des brebis, on clone même des chats maintenant, donc on clone de tout. Mais bien avant de cloner les animaux, on avait déjà cloné les grenouilles. Et ça avait commencé dans les années 50, avec Briggs & King aux États-Unis. Et ça a culminé, ces expériences de clonage, avec cette expérience qui figure dans tous les livres de lycéens. J'ai pu le vérifier avec les livres de lycée de mes propres enfants, qui est une expérience qui a été faite par John Gurdon. Qu'a fait John Gurdon, qui a été une expérience absolument fantastique, simple mais fantastique, et techniquement à l'époque qui était très 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 pointu. Il a prélevé un noyau d'une cellule d'un intestin de grenouille. Il a prélevé ce noyau, ce que vous voyez ici, hein, la cellule intestinale. Il a prélevé le noyau et il a implanté ce noyau dans un ovule. Dans un ovocyte, auquel on avait enlevé évidemment son noyau, son génome. C'est-à-dire qu'il a mis le noyau d'une cellule très différenciée, qui fait que de l'intestin, qui fait pas autre chose, dans un ovule. Et dans ce cas-là, il a obtenu des petits têtards, c'est-à-dire des de développement de l'embryon, et des têtards, c'est-à-dire qui se nourrissent, qui nagent, qui ont des muscles, qui respirent, etc. Et voire dans certains cas des grenouilles. Donc c'était une expérience spectaculaire parce qu'elle montrait ce que je vous disais tout à l'heure. C'est que nous avons bien le même texte génétique dans toutes nos cellules. Lorsque vous avez vos organes qui sont faits, le cœur, le foie, le rein, le texte génétique n'a pas changé. Il est le même que celui qu'il y avait dans l'œuf. On pensait à un moment donné que peut-être il y avait des bouts d'ADN qui partaient et que finalement il ne restait que ce dont on avait besoin pour faire du cœur, du muscle, du foie. Mais non, en fait, il reste tout le texte en entier exactement le même. Alors le seul problème avec ces expériences de clonage, c'est qu'elles sont avec une efficacité très faible pour l'instant, 3 à 5% seulement de réussite. Bon, ça peut s'expliquer de plusieurs manières, mais c'est aussi du fait que on s'est dit, en tout cas dans le laboratoire, que ces noyaux de cellules différenciées ici n'étaient peut-être pas préparés à ces divisions rapides de l'embryon et qu'il fallait à un moment donné les déprogrammer pour pouvoir déprogrammer les ponctuations qu'elles avaient déjà dans la cellule différenciée pour pouvoir s'adapter au contexte d'un jeune embryon. Alors pour faire ça, c'est aussi il y a un système qui est très très bon, qui est toujours à partir de ces œufs de grenouille, qui ont permis de développer un système de biochimie qu'on appelle le tube à essai vivant aussi. Ça s'est appelé comme ça lorsque ça a été inventé Vous avez ici des œufs de grenouille dans un tube à essai, dans un tube de 5 millilitres, il y en a des milliers. Ce qu'on fait, c'est qu'on fait simplement une centrifugation de ces œufs, tube Broya. On récupère le jus qu'il y a au-dessus, et vous avez finalement un jus cellulaire brut, qui est le jus des cellules brutes, qui contient tout ce qu'il faut. Et si vous mettez un noyau, et pourquoi pas un noyau de spermatozoïde, puisque c'est, après tout, ce sont des œufs, vous obtenez tous les phénomènes de la division cellulaire. Ce noyau s'entoure d'une membrane, il se décondense, il redivise son ADN, il fait des chromosomes, et ainsi de suite. Donc c'est un tube un peu magique qui est utilisé maintenant par énormément de laboratoires. Et vous voyez que si vous mettez un noyau de spermatozoïde dans un peu de cet extrait-là, il va très vite, il se divise normalement, mais c'est ce qui se passe normalement dans un développement. Ça va très vite, tout se passe bien. Si vous mettez un noyau différencié, on a pris un noyau de cellules du sang, on pouvait pas faire plus différencié, vous voyez qu'il se divise très mal dans cet extrait que l'on prend. La chose intéressante, c'était que maintenant, si on conditionne ce noyau différencié dans un jus de ces cellules, de ces œufs, mais qui sont exactement dans l'état où est l'œuf lorsqu'il est pondu. L'œuf, quand il est pondu, il est bloqué à une phase très précise de la division, qui est la métaphase de deuxième division. Enfin, il est bloqué, il est dans cette phase. Si on les conditionne, ces noyaux, dans cet extrait, bien vous voyez que ces noyaux, maintenant, se divisent aussi bien que les noyaux de spermatozoïdes. On les a reprogrammés, en quelque sorte, pour une division rapide. Alors, pour voir qu'est-ce qui se passait au niveau des origines de réplication dans ces noyaux, comment la reprogrammation s'était faite, on a utilisé une technique qui a été inventée il y a seulement quelques années, 4-5 ans, en particulier par le laboratoire d'Aaron Ben Simon à l'Institut Pasteur, qui s'appelle le peignage de l'ADN. Alors, comment on peigne l'ADN? On va peigner des molécules isolées. Alors vous avez de l'ADN ici en solution, les petites boules là c'est de l'ADN, il est un peu dans tous les sens parce que c'est une longue molécule. On prend des lames qui ont été silanisées, on les trempe dans cette sauce, dans des conditions où l'ADN va s'accrocher par un bout, va s'accrocher par ce petit bout là, et ensuite on remonte tout doucement la lame. Il y a un appareil qui fait ça pour nous, hein, sinon on tremblerait trop. Ça remonte tout doucement la lame du milieu. Et l'ADN, comme ça, est peigné tout doucement, le long de cette lame. Et lorsque cette lame sort, elle a de l'ADN où vous pouvez voir chaque molécule d'ADN peignée, et que vous pouvez regarder au microscope. Et vous voyez ici une molécule d'ADN tout au long là. C'est un petit bout seulement, hein, parce qu'il y a 2 mètres d'ADN dans une cellule. Hein. Donc, c'est un petit bout seulement. Sous un microscope, vous avez l'ADN qui est en rouge. Et en fait, ce qu'on a fait avant, c'est par un petit marqueur avec un marquage fluorescent, on a marqué les origines de réplication. Et vous voyez ici en vert ce dont on parlait tout à l'heure, les bulles de réplication, qu'on peut visualiser réellement sur la molécule d'ADN. Ce qu'on voyait sur un dessin, les yeux de réplication, bien si vous les voyez maintenant en vert, ce sont les origines de réplication qui ont démarré ici. Et vous voyez qu'elles sont, il y en a beaucoup et elles sont plus ou moins régulièrement espacées. Alors on va revenir à nos noyaux. Si vous prenez un noyau de jeune embryon, la division est très rapide, et vous voyez que ses origines, toujours en jaune-vert, hein, sur l'ADN qui est en rouge, peigné, vous voyez qu'elles sont très fréquentes, elles sont très très fréquentes au long de l'ADN. Je vous ai dit, il en faut 50 000 pour diviser une molécule. C'est très long, une molécule d'ADN. Par contre, si vous voyez un noyau de cellules adultes, qui est simplement introduit dans un œuf, mais sans conditionnement, vous voyez que ces marques, ces origines sont beaucoup plus espacées. Elles sont très éloignées les unes des autres. Et ce qui se passe en fait souvent, c'est que ben finalement la cellule se divise, mais l'ADN n'a pas eu le temps de se répliquer, donc c'est la catastrophe et ça marche plus, quoi. Par contre, si on a reconditionné dans le même contexte dans lequel se trouve l'œuf, vous voyez qu'à nouveau on récupère l'espacement de ce qu'on trouve dans un jeune embryon, de ces bulles, de ces yeux de réplication. Donc on reprogramme les origines de réplication. Et je passe sur les expériences qui ont permis de montrer cela, mais ce qu'on imagine et ce qu'on sait aussi par rapport à d'autres expériences faites dans beaucoup de laboratoires, en fait, notre génome donc est très grand, il est recroquevillé en pas mal de structures, et en particulier, il forme aussi des boucles dans le noyau, ce que vous voyez ici, les boucles d'ADN. Et chaque boucle a probablement une origine de réplication. Il y a une ponctuation pour chaque boucle ici. Lorsque c'est un noyau différencié, il a des grandes boucles. Lorsque c'est un noyau d'embryon, il a des petites boucles et des origines donc très proches les unes des autres. Et lorsque vous mettez un noyau différencié dans des conditions où il peut être reprogrammé, eh bien, on raccourcit cet espacement entre les origines. Donc, ça nous amène à penser évidemment qu'une partie, une partie des échecs du clonage pourrait être due à une organisation de l'ADN pour sa division, lorsqu'on fait un clonage, qui n'est pas adapté finalement à ces divisions rapides, et il faut changer ces ponctuations. Il faut le noyau d'une cellule adulte a des ponctuations qui ne sont pas les bonnes pour un œuf, il faut le reprogrammer. Et que finalement, les origines de réplication organisent les chromosomes de manière différente selon les différents tissus en croissance de l'individu, de l'embryon. Et la question qui se pose maintenant, et elle n'est absolument pas résolue, hein, parce que ça, ce sont des travaux qui sont relativement récents dans pas mal de laboratoires dont le nôtre, mais la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ces ponctuations ne sont pas altérées dans les phénomènes de prolifération anarchique que sont les cancers? Serait-il possible que dans des cas de cancer, simplement, on introduise des origines à l'endroit où il ne faut pas, l'œil s'ouvre dans une zone où il ne faut pas, ou au contraire, l'œil ne s'ouvre jamais dans une zone où il faut l'ouvrir? Alors, je reviens un peu à cette bactérie et aux individus que nous sommes, c'est-à-dire au cours de l'évolution. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, nous étions partis de ce modèle du replicon de Jacob et Brenner. Une seule molécule pour une bactérie, avec une origine de réplication. Et cette origine de réplication confère à ce génome son autonomie, puisqu'elle va lui permettre de se diviser, de faire une copie. Donc, elle lui donne son autonomie pour la croissance et pour la division de la cellule. Quand on va passer à un organisme multicellulaire que nous sommes, eh bien, nous allons avoir une molécule d'ADN beaucoup, beaucoup plus longue. Il faudra beaucoup, beaucoup plus d'origines. Et il faudra, en fin de compte, segmenter cette longue molécule en domaines qui vont donner, si vous voulez, un peu des morceaux différents de ce, si je reprends à nouveau cet exemple du CD, qui vont donner à nouveau des partitions différentes. Et que, peut-être, en mettant cette ponctuation de manière différente selon les tissus, eh bien, pourra avoir une interprétation musicale différente et donc avoir des cellules différentes, encore une fois, même si ce texte reste le même dans ces cellules. Donc, copier notre génome, je suis revenu souvent sur cette image parce que c'est une image, mais elle représente exactement la façon dont nous raisonnons dans ce domaine. On voudrait comprendre comment le même texte. La bactérie, elle fait ça. Elle fait deux textes, deux CD qui donnent la même musique. Le problème du génome humain, c'est que ces deux CD que vous voyez là, il y a une copie qui va probablement se mettre à évoluer vers autre chose. Elle va garder la même copie, mais il faudra jouer autre chose. Donc, dans sa deuxième partie maintenant, dans cette fin d'exposé, je vais vous parler un peu des acteurs. On a vu qu'il y a des bulles, ça s'ouvre, etc., mais ça ne se fait pas tout seul. Il faut des protéines pour faire ça. Les acteurs, et comme toujours dans les phénomènes de fonctionnement du vivant, des régulateurs, et beaucoup, beaucoup, beaucoup de régulateurs, sinon on ne serait pas en train de discuter aujourd'hui, sinon il y aurait des catastrophes à chaque fois. Alors à un moment donné, il faut donner ce qu'on a appelé le permis de répliquer. Comme il y a un permis de conduire, il y a un permis de répliquer dans les cellules. On a vu que ça se faisait pendant la phase S, les bulles s'allument, mais il faut faire ça qu'une seule fois, à chaque division. Vous imaginez bien que ces 50 000 origines, il faut toutes qu'elles s'ouvrent une fois, mais il ne faut pas qu'elles s'ouvrent deux fois pendant chaque division. Si vous avez par exemple une de ces 50 000 qui s'ouvre deux fois, vous allez faire un morceau de la partition en double, et puis la division d'après, vous en ferez un autre en double, et un autre en double, au bout de quelques divisions, ce serait la cacophonie, enfin votre tissu qui ferait ça serait courrait vers les dégâts les plus gigantesques. Et donc la cellule au cours de l'évolution, ils ont mis en place des mécanismes absolument effarants de contrôle pour éviter qu'aucune de ces 50 000 origines à chaque division ne s'allume deux fois. Une fois et une seule, il ne faut surtout pas faire ça. Sinon, on obtient de l'instabilité du génome, le génome n'est plus stable. Et comme dans le cancer, par exemple, on a des grosses instabilités du génome, des pertes de gènes, des duplications de gènes, et tout ça, c'est pas bon. Alors les acteurs, c'est des protéines qui permettent, en fin de compte, vous avez vu tout à l'heure, hein, on fait une bulle, on ouvre l'ADN, donc ce sont ça les facteurs qui donnent le permis, c'est ceux qui ouvrent la bulle. Et ça, c'est des découvertes récentes dont je vous parle. Ça date de 10 ans. La première molécule qu'on a vue aux origines, qu'on a pu isoler, ça date seulement de 10 ans. Et depuis, on en a découvert un certain nombre, mais ça date de 10 ans seulement. Donc, copier notre génome, c'est une tâche ardue, hein, faire ces copies de toutes ces paires de bases. Avant, c'était un moine copiste qui faisait ça. Maintenant, on va voir qu'il ne suffit pas d'une seule personne pour copier tous ces volumes, mais il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup d'acteurs. Et surtout, il faut qu'il y ait d'autres personnes autour qui vérifient qu'il n'y a pas d'erreur. Alors, les protéines qui donnent le permis de répliquer, donc je nomme simplement en dessous là les chercheurs de mon laboratoire qui ont contribué à la découverte de certaines de ces protéines que je vais mentionner. Donc, CDT1, qui est une molécule qu'on a découvert au laboratoire il y a 7 ou 8 ans. CDT1 donne le permis de répliquer, il y a ORC d'abord, la première molécule qui reconnaît une origine s'appelle ORC. Elle a été découverte par Bruce Tillman il y a une dizaine d'années, aux États-Unis. Ensuite, il y a deux facteurs qu'on appelle CDT1 et CDC6. Je m'excuse, les noms sont toujours barbares, même pour nous ils restent barbares, mais c'est comme ça. Souvent ces gènes sont découverts avant qu'on connaisse leur fonction, ce qui fait qu'ils gardent le nom qu'ils avaient avant, quelquefois qui n'a rien à voir avec la fonction, mais voilà, on est obligé de faire avec, même pour nous c'est embêtant. Donc on a ces deux acteurs CDT1 et CDC6 qui viennent et qui permettent de faire rentrer une hélicase. Pour ouvrir l'ADN, pour l'ouvrir, il faut une molécule qui s'appelle une hélicase. Pour hélice, hélicase, c'est-à-dire ça ouvre l'hélice. Et vous avez une hélicase qui va se positionner de chaque côté de l'initiation, pour être sûr, parce qu'on va progresser à droite comme à gauche pour la duplication. Voilà, donc on a progressé, on a synthétisé l'ADN. Maintenant, ORC, CDT1, CD6 qui ont recruté l'hélicase et les hélicases sont parties. Ça, ce sont les acteurs. Et il y a une protéine qui nous a bien intéressé dans le laboratoire et vous allez voir là encore ces liens division, réplication et différenciation de notre génome, même au niveau des protéines. CDC6, c'est un facteur qui permet de faire entrer l'hélicase, un facteur purement de réplication. Et on s'est aperçu effectivement aussi que c'était un facteur qui était essentiel pour donner la compétence à la division de l'œuf. Alors là, c'est une autre version du développement que vous avez ici. Et un moment important, c'est l'ovulation. Quand la femme fait ses ovules qui vont être fécondés par la spermatozoïde. Et en fait, ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'il y a une protéine qui était absolument absente dans les ovaires, dans les ovules, et qui n'est faite qu'au moment de l'ovulation. Et il s'avère que c'est une protéine de réplication, en fait. Et alors, ce qu'on a trouvé, ce qui était très amusant, c'est que cette protéine donc, est donc absente dans l'ovocyte, hein, ou l'ovule, c'est la même chose. Elle est absente. Elle n'est synthétisée que lorsqu'il y a ovulation. Et en plus, le mécanisme est très subtil, parce que la protéine est synthétisée, vous voyez, je l'ai mis un petit... Elle n'est pas contente, parce qu'elle est synthétisée, mais elle est inactive. On lui a donné un permis, mais le permis n'est pas activé. Mais on a mis déjà le permis. Et le permis est activé par le spermatozoïde, en fait, au moment de la fécondation. L'activation de la protéine se fait et la division peut démarrer. Donc vous voyez ici une protéine qui est purement de réplication, qui amène une contribution importante et qui en fait amène une régulation importante de développement. C'est une protéine de réplication, mais là qui est impliquée dans un phénomène de développement important. Et c'est un mécanisme qu'on avait vu au départ donc chez la grenouille et qui s'est avéré être le même chez la drosophile, le même chez la souris. Et plus récemment, le laboratoire de Gareth Edwards a mis en évidence aussi que cette protéine n'était faite qu'à l'ovulation chez la femme. Alors, toujours ces agents recruteurs, CDT1 et géminine. Alors, CDT1, en plus, c'est une molécule particulière parce qu'elle a un partenaire qui s'appelle géminine. Donc, il y a un couple. Ils se mettent ensemble. CDT1 et géminine. Et ce couple, c'est un peu le yin et le yang. Il y a un qui est activateur et l'autre qui est inhibiteur. Donc, elles sont ensemble. Lorsqu'elles arrivent sur l'ADN, elles allument l'origine. C'est pour ça que j'ai mis un petit interrupteur on. Elles allument l'origine et l'origine s'ouvre. Les hélicases vont rentrer. Enfin, elles recrutent, pardon, les hélicases. Les hélicases rentrent. Ça s'ouvre. Ça a activé, mais vous voyez que géminine, j'ai mis un petit sens interdit, parce qu'en fait, la géminine, elle est là pour contrôler l'action. On a allumé, mais cet interrupteur, si vous le mettez dans l'autre sens, il éteint. Et c'est exactement ce qui va se passer. Vous avez les hélicases qui sont parties, on a démarré la division dans cette molécule d'ADN, vous voyez en bas. Et à ce moment-là, pof, CDT1 s'en va, d'autres géminines arrivent, et l'origine est bloquée. Et donc l'interrupteur est maintenant off. Donc vous avez un couple comme ça qui agit on-off à chaque origine, qui dès qu'il a allumé, dès que la synthèse d'ADN démarre, se met en position off, c'est-à-dire qu'on ne peut plus recruter des lycases, et c'est un des phénomènes qu'utilisent vos cellules pour éviter à tout prix qu'il y ait une deuxième division qui parte alors que la cellule n'a pas fini de se diviser. Et vous imaginez qu'un tel phénomène, je vous l'ai dit tout à l'heure, il est très important qu'il ne se produise pas dans nos cellules. Et on a recherché il n'y a pas longtemps, et en particulier c'est le laboratoire de Christophe Cazot à Toulouse qui a fait cette étude, en collaboration avec l'hôpital de Purpan à Toulouse. Ils ont regardé dans des échantillons de tumeurs, de cancer du côlon, qu'ils ont comparé à des tissus sains adjacents du malade. Donc il y avait 74 malades ici. Et vous apercevez ici c'est le niveau 1, disons le niveau normal dans une cellule, ce serait la ligne qui est là. Et vous voyez que dans toutes ces tumeurs, il y a un niveau très élevé de CDT1, qui est la molécule qui active la replication, et plutôt un niveau bas de géminine, celui qui l'inhibe. Ça, c'est une caractéristique qui est intéressante et qui intéresse les cliniciens parce que ça peut être un signe qu'une cellule est en train de rentrer dans un phénomène disons de néoplasie et cancéreux. Ce que cherche le clinicien maintenant, et il s'intéresse beaucoup à ces facteurs de replication, de telle manière à voir si en les regardant dans des tumeurs, on ne trouve pas des niveaux d'expression anormales qui leur indiquent, avant même qu'on ait la tumeur, qu'il y a quelque chose de pas bien qui se passe dans ces cellules. Donc, l'origine est ouverte par une hélicase, et ensuite, en fait, il y en a une deuxième hélicase qui arrive et qui continue à faire la division de la cellule. Les hélicases, ce sont des anneaux comme ça de 8 éléments qui viennent tourner, on le verra tout à l'heure. Et donc, il y en a une deuxième hélicase qui s'appelle MCM8. Je m'excuse pour les noms barbares à nouveau. La première s'appelait MCM27, c'est la 8 qui part et qui continue à faire de l'ADN. Donc on a vu à peu près les facteurs de l'ADN. Plus récemment, il y a une autre molécule que nous avons découverte, qui est MCM9, qui elle aussi se lie à CDT1 et qui vient, elle, plutôt contrôler de façon positive l'action de CDT1. Et c'est donc seulement lorsque toutes ces molécules se trouvent sur l'origine que l'origine peut bien, démarrer, s'ouvrir et assurer à la fois son ouverture et le contrôle de son ouverture, surtout, encore une fois, surtout que ça ne se passe pas une deuxième fois. Alors, je vous disais tout à l'heure que ça peut être des marqueurs intéressants sur le plan diagnostic du cancer. C'est protéines qui donnent le permis d'initier. Et je vais vous donner un autre exemple qui est le travail du laboratoire de Gareth Edward à Cambridge. C'est pas 2027, je me rappelle que j'ai marqué 2027, mais c'est 2007. C'est pas une expérience futuriste, elle a déjà eu lieu. Alors, il s'est intéressé aux cellules glandulaires épithéliales du sein chez la femme. Et vous avez ici une coupe d'un sein normal, à gauche, en haut à gauche. Et vous voyez les petits points marrons que vous voyez sur la coupe, que vous voyez là, sont simplement un marqueur de cellules en prolifération, qui est très utilisé dans le diagnostic du cancer. Quand on voit beaucoup de points blancs comme ça, on peut se poser des questions. Et vous voyez que, on voit qu'il y a des cellules qui se divisent, mais c'est normal, je vous ai dit tout à l'heure que vous avez de toute façon toujours des cellules qui se divisent. Par contre, vous voyez une autre, si on regarde un facteur qui ici, un facteur qui donne le permis de repliquer, qui est MCM2, vous voyez que ce tissu, bien qu'il est normal, contient une quantité très importante de ce facteur qui donne le permis de diviser, alors que la cellule n'est pas encore en division. Ce qui est intéressant, c'est lorsqu'au cours de la grossesse, alors là, vous voyez que par contre, ça se divise beaucoup et que c'est complètement, toutes les cellules pratiquement sont en division, complètement en train de se diviser. Et par contre, lorsque il y a la lactation, ces cellules vont être différenciées pour produire du lait. Alors là, elles se divisent plus du tout. Et ça, c'est un phénomène extrêmement intéressant qui intéresse beaucoup de monde parce qu'on se dit que finalement, ces cellules qui donnent le permis, ces protéines qui donnent le permis de répliquer, ça pourrait être des marqueurs intéressants qui ne marquent pas seulement les cellules qui sont en division, mais celles qui, un jour peut-être, vont se diviser et en tout cas sont déjà déterminées pour se diviser. Et beaucoup de gens pensent, par exemple, que le sein chez la femme, c'est un tissu très particulier parce qu'on sait que, au cours de la vie, il va rentrer dans plusieurs cycles de division accrus pour ces phénomènes de grossesse et de lactation qui sont conservés dans l'évolution et que peut-être, il y a déjà, l'évolution a imprimé dans ces cellules a mis ces cellules dans un état qui est déjà prédéterminé, sont déjà un petit peu engagées à la division cellulaire, tout en étant absolument normaux. Hein. De toute façon, ici, c'est un phénomène tout à fait normal. Tout ça, donc, ça fonctionne. On a vu donc le principal là, hein, l'origine de réplication qui s'ouvre, etc. Je ne vais pas parler aujourd'hui de la machinerie de réplication, simplement pour vous dire que cette fermeture éclair qui s'est ouverte, qui va faire deux fermetures éclair, il y a des tonnes de protéines qui vont venir dessus pour la diviser. C'est des dizaines et des dizaines de facteurs qui vont jouer ensuite pour tricoter l'ADN le long de cette molécule. Et je vais vous montrer simplement un petit film, plutôt que ce schéma, qui vous montre un peu comment ça se passe. C'est un film absolument, pour terminer, c'est un film absolument prodigieux qui a été fait par le Cold Spring Harbor, un laboratoire prestigieux à New York. Et donc, vous allez voir ce qu'on voit ici, c'est-à-dire l'hélicase, qui est ici, on en a parlé, qui ouvre toute la double hélice d'ADN. Vous allez voir les polymérases qui sont en train de tricoter de l'ADN. Vous allez voir même les petites amorces d'ARN, parce qu'il y a des petites amorces d'ARN qui sont faites pendant la réplication. Et vous allez voir plusieurs molécules qui vont fonctionner ici, à cette fourche, au l'endroit où ça se divise. Si ça fonctionne. Alors, ce qui va être très impressionnant à voir, je pense, c'est ce que vous voyez c'est en bleu, là, c'est l'hélicase. C'est celle qui vient ouvrir l'ADN. Vous allez voir que cette molécule tourne comme une hélice d'avion. Ça va très très vite, ça fait 3000 paires de bases à la minute, hein, une division d'ADN, donc ça va vite. Ce qui est en bleu clair, ce sont les polymérases, les DNA polymérases qui tricotent l'ADN. Ici, vous avez le brin parental, et ici, il s'ouvre, ici et là. Ça fait une boucle, parce que au niveau structure, c'est comme ça que ça se passe. La fourche, elle est là, mais ensuite, ça fait une petite boucle. Et vous avez une polymérase qui fonctionne sur un brin, une polymérase qui fonctionne sur l'autre brin pour tricoter l'ADN. Et ce que vous avez en vert, ce sont des molécules qui permettent d'associer de façon très stable les polymérases sur l'ADN. Ça va vite, ça dépense beaucoup d'énergie et c'est violent. Hein. C'est violent. Oh non, là, c'est pas violent du tout. Donc on va essayer de la faire marcher. Voilà. Donc vous voyez ici cette molécule qui est en train de se diviser. Ici, l'hélicase qui fonctionne. Vous voyez de près. Vous voyez l'hélicase qui tourne comme un moteur d'aviation, les polymérases qui fonctionnent, qui ramènent les brins, qui sont en train de tricoter. Vous voyez l'ADN ici qui est simple brin, qui devient double brin ici, qui est tricoté dans un sens et dans l'autre aussi. Vous voyez ici, là, ça, c'est en train d'être tricoté. Encore une autre vue très impressionnante. Et là, les structures sont celles qui est la structure connue de ces protéines. C'est pour ça que ce film est bien, parce qu'il a été fait avec la vraie structure des protéines. Et j'aime bien montrer ce film souvent aux étudiants aussi, parce que ça montre aussi la difficulté quand on fait une recherche sur un mécanisme vivant, on voit toujours des dessins. En fait, ça bouge, ça n'arrête pas de bouger, c'est très violent comme phénomène. Et si vous regardez, par exemple, une molécule, on regardait tout à l'heure une molécule comme celle-là, par exemple, vous voyez que de temps en temps, elle est dehors, la verte, de temps en temps, elle est dedans. Et quand vous faites un extrait, il y a de tout, il y a un mélange de tout. Donc, comment savoir si elle est dehors ou dedans? Mais en fait, ce qu'on prend, c'est un mélange de quelque chose qui est figé. Et on n'a pas encore de caméra, évidemment, quand on fait la recherche pour voir d'aussi près et comme ça. Mais ça vous indique la difficulté qu'il y a pour un biochimiste aussi pour essayer d'imaginer comment ça se fait et pour essayer de figer à la limite cette mécanique à un moment donné pour dire voilà qu'est-ce qu'on a là maintenant, qu'est-ce qu'on a là l'instant d'après, etc. Voilà, je vous remercie beaucoup.
Vous avez des questions? Oui, devant, monsieur là. Tout devant. Non. Voilà.
Quel est le rôle des télomères dans le vieillissement?
Alors là, c'est une autre question. Alors, j'ai pas abordé ça. C'était trop complexe. Il y a beaucoup de choses sur une heure, donc je préfère vous montrer des Alors, les télomères, c'est particulier. C'est effectivement une très bonne question, puisque on a vu la molécule d'ADN, et puis il y a les bouts. Et cette machinerie, simplement, vous imaginez une molécule d'ADN avec cette machinerie qui est dessus. Lorsqu'elle va arriver au bout, elle va avoir du mal à faire la fin. puisque simplement elle prend de l'encombrement elle-même et donc elle va avoir du mal à faire la fin. C'est ça, ce sont les bouts d'ADN. À chaque chromosome, il y a ces bouts, il faut les diviser aussi. Et donc il faut autre chose, parce que s'il n'y avait que cette machinerie, à chaque division, on perdrait un petit bout à la fin. Et ça, c'est pas bon. Et donc il y a des enzymes qui ont été découvertes, qui s'appellent les télomérases, qui permettent de, disons, faire les petits bouts de cet ADN. Alors, effectivement, on a observé qu'il y a un raccourcissement des télomères au cours des phénomènes de vieillissement, et c'est un rôle, le rôle que ça a exactement sur le plan cellulaire et de sa physiologie, il n'est pas parfaitement connu. On imagine simplement que si vos extrémités d'ADN deviennent de plus en plus courtes, votre génome se porte de plus en plus mal, on va dire. Et en particulier, des zones aussi même qui sont à côté, mais qui sont sous contrôle de protéines, c'est un peu trop long à exprimer, qui sont sur les télomères, eh bien, elles vont commencer aussi, même ce qui est en amont, je veux dire, des télomères, va avoir des problèmes pour son expression. Le repliement de la fibre va avoir des problèmes également. La ségrégation des chromosomes va avoir des problèmes. Et on rentre là dans un phénomène d'instabilité du génome. Et qui est important, effectivement, et qui est tout à fait vrai, important dans le vieillissement de la cellule. Mais on ne peut pas répondre à l'heure actuelle, je pense, qu'est-ce qui fait que, disons que c'est important dans le vieillissement, dans le sens où cette cellule, si ce raccourcissement s'effectue, eh bien, à la fin, son génome va devenir...
Ça limite le nombre de divisions.
Alors ça limite exactement le nombre de divisions, c'est ce qu'on pense, c'est-à-dire qu'on a en général, ça dépend du type cellulaire, entre une trentaine et une cinquantaine de divisions qu'on peut faire, disons, pour une cellule en culture, au-delà de laquelle, soit elle meurt, soit ça devient une cellule cancéreuse. Et là, il y a d'autres phénomènes qui rentrent en jeu et qui sont non plus pas bons pour l'organisme.
En ce qui concerne les mutations, c'est ici.
Ah, voilà.
Pardon, excusez-moi. En ce qui concerne les mutations, est-ce que ces nouvelles connaissances améliorent les connaissances dans le domaine des mutations ? Est-ce que la théorie de Jacques Monod que les mutations ont lieu au hasard et par nécessité, c'est-à-dire qu'elles se font au hasard et que c'est l'environnement qui leur permet de subsister, et est-ce que ces mutations se font au niveau des origines? C'est les origines qui seraient perturbées, changeraient et apporteraient des nouvelles mutations.
Alors c'est aussi une question intéressante. Je crois que pour l'instant on ne peut pas y revenir. C'est vrai que je vous avais dit qu'elle avait des problèmes. En fait, on est passé. Alors, une mutation en général. On rentre là dans de la génétique, c'est-à-dire c'est un changement de l'alphabet dont nous parlions tout à l'heure. Il va y avoir une lettre qui est changée par une autre. Et dans le cas classique qui est connu de tout le monde, c'est une protéine qui va changer un acide aminé par un autre et ça va lui poser des problèmes. Par exemple, l'hémoglobine qui va changer un de ses acides aminés, ça va donner une anémie, etc. Bon. Le problème des origines de réplication, c'est ce que je vous disais tout à l'heure et qui interloque beaucoup de chercheurs, c'est qu'elles n'ont pas de texte bien défini. Chez la bactérie, le modèle de Jacob et de Brenner est vrai. L'origine a bien une séquence bien définie. Si vous la changez, ça peut arrêter, c'est fini, la bactérie meurt. Elle peut plus se diviser, c'est terminé. Donc, on a bien une notion génétique, telle que vous la définissiez, de la mutation ici. Pour le caryote que nous sommes, pour les multicellulaires, c'est différent parce que il y a plusieurs cas de figure. Soit cette origine peut disparaître, mais comme il y en a une autre qui est à côté, ben ça va passer à travers et puis tout se passe bien. Soit cette origine contrôle un domaine important et c'est pas bon de ne pas placer cette ponctuation à cet endroit. Et ça, on ne sait pas pour l'instant. Ce sont simplement une hypothèse. Donc ce qu'on peut imaginer, c'est qu'il y a des cas de figure, et ça s'est déjà vu chez la levure et chez l'homme aussi, qu'il y a des origines de réplication, mais ils ne sont pas vraiment nécessaires aux endroits où elles sont. Si elles n'y sont pas sur un cycle, c'est pas très grave. Il y a une origine qui vient d'ailleurs, où l'ADN progresse, il passe à travers, il divise, tout se passe bien. Par contre, il est possible, mais là il n'y a aucune démonstration expérimentale, que dans certains cas, cette ponctuation, justement, si vous la mutez, vous l'altérez, si elle peut se passer ailleurs, eh bien, ce soit pas bon pour l'expression du domaine. Mais ça, c'est, disons, très bouillant dans beaucoup de laboratoires à l'heure actuelle pour les, en ce qui concerne ces études, mais c'est pas encore démontré expérimentalement.
Deux questions. La première, vous nous avez parlé, essentiellement, c'était votre sujet, de la réplication et de tous les aspects, finalement, moléculaires de la chose. Or, dans le développement, il a été depuis très longtemps, on a eu des connaissances sur, par exemple, l'inducteur de Spemann, qui était un phénomène d'influence de certaines cellules les unes sur les autres. C'est-à-dire que en greffant un inducteur à un certain niveau, ça développe le système nerveux, etc. Donc, comment articuler ces connaissances à l'échelon moléculaire avec les connaissances à l'échelon cellulaire? Et ma deuxième question, je prends la morula. Au début, toutes les parties de la morula sont identiques. Comment se fait-il qu'il se produise une première différenciation, alors qu'a priori, on ne voit pas pourquoi elle se produirait à tel niveau de la morula plutôt qu'à tel autre?
Alors là, bon, là, on va rentrer dans des phénomènes de développement. Ça, c'est le développement. Pour votre, vous aviez deux parties dans votre question. Pour l'organisation de Spemann, dans l'état actuel des connaissances, on ne peut pas, par rapport, en tout cas, bon, il y a beaucoup de choses qui ont été faites sur l'organisation de Spemann au niveau moléculaire, hein. Mais en ce qui concerne, là, disons, la reproduction du génome, il n'y a strictement rien, pour l'instant. Ces études, dont je vous parle sont des études qui sont vraiment en pointe à l'heure actuelle dans beaucoup de laboratoires. Il y a 50 000 origines, par exemple, de réplication. Il n'y en a qu'une trentaine à l'heure actuelle de connues, réellement. Donc, ça vous dit le chemin qui reste à faire. Probablement, dans les 2-3 années qui viennent, on les connaîtra à peu près toutes, parce qu'il y a des méthodes nouvelles qui sont sorties. Mais donc, on peut évidemment spéculer que lorsque l'organisateur de Spemann est greffé dans un autre territoire et produit autre chose que le territoire, que ce que devait donner ce territoire, il y a un changement de différenciation. Et que peut-être on bouge aussi ses origines ici, mais ça reste totalement à démontrer. Hein. En ce qui concerne la morula, alors la morula effectivement, c'est cette petite aspect de mur, donc l'embryon dans ses premières divisions, il va diviser son ADN. Mais si on prend un œuf de grenouille, on sait aussi que dans l'œuf déjà, il y a des molécules qui ne sont pas les mêmes en haut de l'œuf. En bas de l'œuf, au milieu de l'œuf, etc. L'œuf est déjà, j'allais dire, pratiquement une molécule qui a déjà une petite empreinte de ce qui va se passer plus tard. C'est pas simplement une cellule très différenciée, c'est un œuf, l'ovule, mais il contient déjà des déterminants. Donc même lorsque cette cellule va se diviser, ben ces déterminants vont se trouver évidemment dans des cellules qui seront pas les mêmes au pôle animal, en haut de l'œuf, que dans le pôle végétal, le pôle en bas de l'œuf, et ça va déjà provoquer des différences dans ces cellules. Donc, en fait, la question que vous posez, bon, il y a énormément de mécanismes qui jouent pour ces développements. Ce qu'on sait maintenant, c'est que tout ça se fait de façon très progressive. Il n'y a pas, ce que disait Sidney Brenner il y a quelques années, il n'y a pas un ordinateur central dans l'œuf qui dit là, il faut faire maintenant de la peau. Là, il faut faire du muscle. Là, il faut faire du cœur. C'est petit à petit que tout ça se fait et que dans la lignée qui va vers la peau, à un moment donné, on peut pas faire autre chose que faire de la peau. Et dans ce qui va vers le cœur, on peut pas faire autre chose que faire du cœur. Mais c'est très progressif. Il n'y a pas une machinerie centrale qui dit allez là vers le cœur, allez là vers le... C'est une répartition. Ces cellules deviennent différentes progressivement au cours de l'embryogenèse, de plus en plus différentes au niveau moléculaire et de plus en plus différentes dans la façon aussi dont est organisé le génome. Le génome, encore une fois, reste identique, les lettres restent identiques, mais il se met à s'organiser de manière différente. On sait maintenant que cette organisation est très importante. Selon que les chromosomes vont s'organiser d'une façon ou d'une autre dans un œuf, ils vont déjà exprimer des choses différentes. Ils vont se parler entre eux de façon différente. Il y a des phénomènes locaux qui vont se produire. Et tout ça se fait de façon très subtile et très progressivement au cours du développement.
Oui, bonjour monsieur. Vous avez parlé tout à l'heure du clonage. Je voudrais poser un petit peu la question de monsieur Tout-le-Monde. Que pensez-vous de la réalisation du clonage humain aujourd'hui? Est-ce possible?
Écoutez, il y a eu beaucoup de personnes déjà qui se sont qui sont intervenus sur ce plan. Bien entendu que personne n'est pour le clonage humain, c'est quelque chose qui n'a strictement aucun sens. Par contre, il y a, comme je vous le disais, beaucoup d'efforts sur la production de cellules de souche. Il y a un grand débat qui existe à l'heure actuelle pour la collection d'embryons humains, pour produire à partir de ces embryons humains des cellules souches. Mais certainement pas pour faire du clonage humain, mais pour produire des cellules souches. Quand on sait l'intérêt thérapeutique qu'ont les cellules souches, qui risquent d'être une révolution dans la façon dont on soigne, dont on nous soigne dans le futur, je pense, enfin, moi c'est mon opinion, en tout cas, et c'est l'opinion de beaucoup de mes collègues anglo-saxons et en particulier, que ces expériences, eh bien, doivent se faire évidemment dans le contrôle le plus strict, ce qui se passe à l'heure actuelle d'ailleurs en France. Il faut des gros dossiers pour pouvoir travailler sur des cellules souches, simplement pour travailler sur des cellules, même pas sur des embryons, les embryons c'est encore autre chose, mais même pour travailler sur des cellules souches humaines, il faut des gros dossiers, c'est contrôlé, etc. Donc cellules souches, c'est une chose. Le clonage humain, c'est évident, bon, ça n'a strictement aucun sens. Alors est-ce qu'il est possible ou pas? Bien sûr qu'il n'est pas possible aujourd'hui. On a entendu des choses, mais on sait que ça n'a pas été réalisé. Et ce que espèrent tous les scientifiques et tous mes collègues, c'est qu'il sera jamais possible. Mais maintenant, si on veut être honnête et pas avoir la langue de bois, on sait que la science étant ce qu'elles sont, un jour ou l'autre, peut-être. La question, ce sera de ne pas le faire. Et je vois pas tellement l'intérêt pour l'homme de le faire, si vous voulez. Mais la science, c'est comme ça. La science, elle avance. Le clonage humain, il n'est pas possible aujourd'hui, ça c'est clair. Vous dire qu'il ne sera pas possible dans 200 ou 300 ans ou 400 ans, peut-être qu'il ne sera pas possible non plus dans 400 ou 500 ans, mais je ne sais pas, simplement.
Bonsoir, merci déjà de partager un petit peu avec les gens ce que là où vous êtes spécialiste. En fait, ma question, elle est très simple. Par rapport à votre expérience, donc ça fait quand même plus de 20 ans. L'évolution des calculs numériques, l'utilisation de l'ordinateur, les méthodes de calcul, tout ça, est-ce que ça a changé beaucoup de choses? Et pour l'avenir, est-ce que vous pensez que les simulations numériques peuvent éventuellement aider le chercheur à essayer d'appréhender et faire des beaux petits simulations comme tout à l'heure, quoi? Merci.
Alors, oui, techniquement, puisque la question que vous posez, c'est une question importante aussi, puisque nous sommes dépendants des méthodes. Il y a eu le microscope, après il y a eu le microscope un peu plus puissant, après il y a eu le microscope électronique, et puis on est passé à des méthodes qui permettent de voir les molécules, d'interpréter les molécules, de voir des protéines, ou en tout cas de les révéler sur différents types d'appareils. Il y a maintenant beaucoup d'imagerie qui se fait et qui utilise les méthodes de calcul que vous mentionnez, c'est-à-dire que les mathématiques, oui, et la physique, oui, sont rentrées en force dans la biologie, parce que il y a des méthodes qui sont très développées, aussi bien pour étudier la physiochimie, par exemple, d'une molécule d'ADN, savoir comment elle évolue, aussi bien que pour les méthodes d'imagerie elles-mêmes. Les méthodes d'imagerie elles-mêmes se sont développées aussi bien pour les individus dans les hôpitaux, les scanners, les RMN, etc. Et on en voit aussi les retombées dans les laboratoires pour voir une cellule. Là, j'ai montré des cellules vues sous un microscope, mais le peignage de l'ADN, par exemple, c'est des molécules d'ADN isolées, c'est-à-dire qu'on arrive déjà à une résolution plus forte. On peut filmer ça aussi. Il y a des réseaux Et puis, là où les mathématiques, puisque j'ai l'impression que vous êtes mathématicien ou quelque chose, ou en tout cas vous aimez ça, les mathématiques rentrent en force, en fait, avec la bioinformatique, parce que pour interpréter ces données maintenant, encore une fois, on l'a dit, hein, c'est l'équivalent de 100 000 pages, d'un grand nombre de pages écrites de ce texte. Il faut l'interpréter. Pour l'interpréter, il faut des calculs et il faut de la bioinformatique. Et par exemple, si on veut comprendre le jour où on pourra cartographier toutes ces origines, il y en a 50 000, il faudra des ordinateurs et des méthodes d'interprétation très fortes pour interpréter ces signatures qu'on voit là et de dire quel sens elles ont, parce que on ne pourra pas le faire, on peut pas le faire maintenant, on peut plus le faire dans les laboratoires simplement sur son cahier. Donc ces méthodes, oui, sont rentrées en force. Oui, dans beaucoup de laboratoires maintenant, on demande des bioinformaticiens. Ça devient maintenant même quelque chose d'aigu depuis 2 à 3 ans. C'est la course aux bioinformaticiens. Et il y a aussi ce qu'on appelle maintenant, qui sort beaucoup, qu'on appelle les systèmes biologiques. C'est-à-dire que il y a beaucoup de données maintenant que les laboratoires ont.
Et alors, le but, c'est d'accumuler un nombre de données maximum sur la cellule et demander à un ordinateur d'essayer de nous interpréter ça, de nous trouver une logique à cela. C'est vrai que la complexité du vivant est telle maintenant qu'on se penche beaucoup sur des méthodes d'informatique pour essayer d'aider le chercheur dans son raisonnement même, d'essayer de comprendre comment des choses aussi dispersées peuvent avoir un sens. Donc oui, bien sûr, ça, très important.
Madame, allez-y. Oui, je suis là. Dans les mécanismes de division et différenciation, donc il est possible que surviennent des accidents, hein, ou une élimination de la cellule par le fait d'un accident. Donc est-ce que d'une part les accidents sont programmés, le nombre d'accidents est programmé, et d'autre part, est-ce que si donc on peut envisager que la chose puisse se faire sans qu'aucun accident ne survienne et qu'à ce moment-là on devienne immortel?
Écoutez, on n'y est pas encore. On n'y est pas encore. Alors, les accidents programmés, bien sûr, c'est tout à fait ça existe, ce qu'on appelle la mort cellulaire programmée. Et ça, dans tout développement, il y a des morts cellulaires programmées. Pour qu'on ait, je vous ai montré tout à l'heure des cellules qui se divisaient. Et dans le développement, il y a en tout cas il y a des morts cellulaires. Ce ne sont pas des accidents. Ce sont des morts cellulaires qui sont programmées. Il faut détruire il faut fabriquer des cellules pour façonner un organe, mais il faut quelquefois aussi en détruire pour que cet organe ait une forme et un sens. Donc, dans le développement de tous les organismes, il y a de la division cellulaire et aussi de la mort cellulaire pendant le développement. C'est pas simplement après, pendant le renouvellement de nos cellules quand on est un adulte, qu'il y a de la mort cellulaire. Il y en a aussi dans le développement d'un embryon.
Mais c'est-à-dire le développement. Alors, à ce moment-là, ce développement. Ou alors, est-ce qu'il serait de l'environnement, je ne sais pas, de mode
alors,
de vie ou des
alors,
choses comme
alors,
ça?
Alors, ça, c'est les accidents qui peuvent après se passer dans la vie. Alors là, je pense que vous faites allusion peut-être plus à des accidents d'environnement dans la vie adulte, au cours du renouvellement de nos cellules.
Ils peuvent aussi être codifiés dès le départ, dès l'origine, non?
Eh bien, ces accidents, ils peuvent... En fait, les accidents que l'on connaît à l'heure actuelle qui peuvent se produire dans la vie adulte, c'est par exemple, vous avez entendu il n'y a pas longtemps que l'Académie de médecine a dit qu'il ne fallait pas s'exposer aux UV parce qu'ils étaient dangereux, même si pour se préparer au bronzage. On sait depuis longtemps que les UV, par exemple, simplement, s'exposer, ça provoque des dommages à l'ADN. Ça provoque des lésions sur l'ADN. Alors, notre machinerie de réplication qu'on a vue tout à l'heure, elle a aussi des protéines qui sont là pour réparer ces liaisons et pour faire justement qu'il n'y ait pas d'erreur dans l'alphabet, dans le texte. Mais s'il y en a trop, il y en a qui lui échappent et ça va effectivement vers des cancers. Ça, c'est l'irradiation, c'est quelque chose qui marche très bien pour provoquer des cancers chez l'animal. Les lésions non réparées. Donc ça, ce sont des accidents, oui, qui arrivent. Le rayonnement solaire excessif, les polluants et tout ce qu'on connaît dans notre environnement, qui peut être à dose élevée effectivement nocif, qui peut provoquer des dommages et qui peuvent endommager effectivement la façon dont notre texte est dupliqué. Et si notre texte fait des erreurs justement, et donc je reviens aux mutations qui étaient posées tout à l'heure, fait des erreurs et donc des mutations, et s'il s'en produit trop, que pendant la duplication, les phénomènes, la machinerie est saturée pour réparer, eh bien vous avez des cellules. Dans le meilleur des cas, qui vont mourir, tant mieux, mais dans le pire des cas, qui vont survivre et qui, là, vont faire n'importe quoi. Donc, ça, c'est... Ah non, mais même s'ils n'avaient aucun accident qui se... Écoutez, il y a d'autres choses comme les télomères, ce qu'indiquait tout à l'heure le monsieur, qui font que, de toute façon, il y a des phénomènes codifiés, effectivement, dans la cellule, qui font qu'une cellule a une durée de vie définie. Donc, on n'en est pas encore à ce stade, non.
Comment les variations des origines de réplication de l'ADN, variations sur les tissus, influencent-elles l'expression des gènes de l'ADN une fois répliqué?
Oui, alors bon, c'est la question qui est au centre de nos recherches et ainsi que d'autres laboratoires. C'est comment cette ponctuation va changer les choses. Alors en fait, ce qu'on pense, c'est que En fait, ce que je revenais tout à l'heure, le génome bactérien, il fait qu'une chose, se diviser, il fait de la croissance, il a une origine qui contrôle tout ce domaine. Vous, moi, nous, nous avons 200 tissus différents. Notre organisme qui se divise, etc. Donc il faut des organisations différentes. Et ce qu'on pense, c'est que pour rendre ces domaines, par exemple, je prends un exemple, l'hémoglobine, vous allez faire du sang, une cellule sanguine, vous allez faire de l'hémoglobine. Il y a une protéine qui s'appelle l'hémoglobine. Il faut la faire uniquement dans les cellules du sang. Il ne faut pas en faire dans votre cerveau ou dans la peau, sinon on ne serait pas là aujourd'hui à discuter ensemble. Donc ce gène, on disait tout à l'heure, le texte existe partout. Donc le gène globine, il existe dans votre cellule neurale. Il existe dans votre peau, il existe dans votre foie. Simplement, il se tait là. Il est silencieux, il n'est pas exprimé, il n'est pas transcrit. Et donc ce qu'on suppose, c'est que les origines viennent ici contrôler ces domaines de telle manière à les rendre indépendants des autres domaines. Lorsque l'origine sera là, autour de ce gène globine, elle va lui conférer une autonomie à ce domaine. Ça va permettre d'isoler, comme un point, c'est pour ça que je reprenais l'expérience de la ponctuation. Que fait la ponctuation? Elle isole des fragments de texte. Si vous faites une ponctuation différente, vous isolez des fragments de texte différents. Dans le cas de l'hémoglobine, on aura une ponctuation particulière par les origines dans la lignée qui va vers la lignée érythropoïétique. Ça, ce sont les qui va en particulier faire ce qu'on a vu tout à l'heure, une boucle qui va s'isoler de l'ADN qui contiendra le gène globine à exprimer uniquement dans les cellules du sang. C'est à l'heure actuelle une hypothèse qui est travaillée par beaucoup de laboratoires. Elle n'est pas encore, je vous le dis très franchement, complètement démontrée, mais c'est un peu comme cela que les choses se perçoivent à l'heure actuelle.
Eh bien, Monsieur Méchali, merci beaucoup.
Merci.